France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les salariés des EHPAD seront testés chaque semaine pour détecter d'éventuels malades du Covid-19. Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie, l'annonçait hier soir lors d'une conférence de presse organisée par le ministre de la Santé. 1 600 000 tests antigéniques seront livrés aux maisons de retraite pour les premières semaines, à elles ensuite de se les procurer. Ces tests ne seront pas obligatoires, précise le gouvernement. Le confinement, par ailleurs, n'est pas terminé. Voilà ce que dit Olivier Véran. Il y a plus de 21 000 nouveaux cas positifs recensés ces dernières 24 heures. C'est deux fois moins que jeudi dernier. Une baisse, donc. Mais les indicateurs restent quand même à un niveau élevé. Pour préserver tant bien que mal les commerces fermés, Amazon France accepte l'idée d'un report du Black Friday du 27 novembre au 4 décembre, une semaine plus tard que prévu. Donc, c'est son directeur général qui l'annonçait hier soir, répondant à une demande du gouvernement pour éviter un afflux massif de clients dans les magasins au moment de leur réouverture possible. Le Covid-19 aux États-Unis maintenant. La maladie continue de se propager. Le pays a enregistré près de 12 millions de cas au total, 252 000 morts, dont 2 000 rien qu'hier. Les autorités sanitaires encouragent les habitants à ne pas voyager la semaine prochaine pour les fêtes de Thanksgiving. Zoom sur l'état du Dakota du Nord dans une demi-heure pour le journal de 6h30. Sachez par ailleurs aux États-Unis toujours que plus de deux semaines après la présidentielle, le recomptage à la main des bulletins dans l'état de Géorgie conforte la victoire de Joe Biden, même si l'écart avec Donald Trump reste serré, 12 000 voix. Le président sortant conteste sa défaite et il peut toujours demander un nouveau recomptage. Enfin, un mot de la proposition de loi dite de sécurité globale en France. L'article 24 qui encadre les images des forces de l'ordre est toujours pointé du doigt. Un amendement doit être apporté par l'exécutif pour garantir, dit le gouvernement, la liberté de la presse et la liberté d'être informé.
Jamais la problématique islamique n'a été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci.
Sur France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Entre la surmédiatisation et la méconnaissance, l'émission Question d'islam aborde ce sujet avec calme, sérénité, distanciation, discernement.
La formation des imams avec Ahmed Sfaxi, chercheur en sciences de l'éducation, ce dimanche à 8h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Avec la crise sanitaire, le Conseil de défense a pris une nouvelle importance, se substituant parfois au Conseil des ministres. Le Parlement, lui, apparaît comme une chambre d'enregistrement.
Sur France Culture, politique, par celles et ceux qui la fond, Hervé Gardette.
Faut-il y voir une évolution profonde de nos institutions et de l'équilibre des pouvoirs ? Nous en parlerons avec le sénateur LR Philippe Bas, ancien président de la Commission des lois et ancien secrétaire général de l'Élysée.
Politique, ce samedi à midi et à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure du monde vivant de Bruno David, avec qui nous suivons ce matin le périple de la girafe.
« 26 juin 1827. Dans une bourgade de la vallée de l'Essonne, on s'affaire, on s'échauffe, la rumeur enfle, il arrive l'animal extraordinaire. Dans la grande rue, une nuée de gamins excités devance la bête fantastique. Même si une foule dense borde son chemin, même si elle est très escortée, on ne voit qu'elle. Son cou démesuré dépasse tout le monde, on n'a jamais vu un animal pareil. Des yeux avec de grands cils, deux cornes, la grâce elle-même juchée, haute sur pattes. Elle porte une robe aux armes de la France et du pacha d'Égypte et une sorte de chapeau. Sous les habits, on aperçoit un pelage tacheté de larges plages brunes. Camelo pardalis, le chameau léopard. Les scientifiques l'ont bien nommé la girafe. L'escorte, guidée par trois gendarmes, est digne d'une équipée de cirque. Outre la girafe, elle encadre deux vaches soudanaises, deux antilopes et deux mouflons. Ancien de l'expédition de Bonaparte en Égypte, un éminent scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, est responsable du parcours de 880 km entre Marseille et Paris. Dans la vallée de l'Essonne, on s'arrête à l'auberge Saint-Éloi pour la nuit. La girafe doit boire du lait et se reposer. Cette auberge prendra désormais le nom de « Hôtel de la girafe ». Mais au fait, pourquoi une girafe traverse-t-elle la France à pied ? Notre célèbre girafe est un cadeau royal. En 1824, Mehemet Ali, pacha d'Égypte, veut resserrer les liens avec la France. Il dispose de deux girafons orphelins. Tandis que les girafons grandissent, ils attirent, en 1826, la convoitise du consul anglais qui exige que son pays ait, lui aussi, sa girafe. Les deux girafons sont tirés au sort. L'un ira à la France et l'autre à l'Angleterre. Le girafon anglais voyagera directement jusqu'à Londres, où il mourra le lendemain de sa présentation au roi. Le girafon offert à Charles X, lui, vivra encore 19 ans. À son arrivée à Marseille fin octobre, on prend une sage décision. Il passera l'hiver dans une douillette écurie chauffée. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire rend visite à la girafe. Il l'observe et prépare son convoiement vers Paris. Le périple démarre le 20 mai pour s'achever le 30 juin au Jardin des Plantes. Suite à sa réception par le roi, 600 000 personnes la verront entre juillet et septembre 1827 dans la rotonde de la ménagerie, qu'elle partage avec Attire, son soigneur, qui logea sur un balcon à hauteur de tête de l'animal pendant 12 ans. Une véritable girafomania s'emparera provisoirement de la France. Plaques de cheminée, vaisselle, mouchoirs, enseignes, coiffures de ces dames et cravates de ces messieurs sont à l'effigie de la girafe. Empaillée à sa mort en 1845, la girafe est transférée au musée d'histoire naturelle de La Rochelle en 1931. Le muséum manquait déjà de place. Le nom de Zarafa, qui signifie « girafe » en arabe, lui sera donné bien plus tard, à la fin du XXe siècle. Geoffroy Saint-Hilaire, lui, l'appelait « bel animal du roi ».
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Et vous le savez, tous les vendredis, une prescription d'une bande dessinée pour bien terminer la semaine. Et c'est bientôt Noël et compagnie, c'est-à-dire la saison des bonnes résolutions à prendre pour la nouvelle année. Enfin, quand je dis bonnes résolutions, ça veut surtout dire une liste de sacrifices, d'abandons, de renoncements sages. Autant de défis qu'on espère parvenir à relever, tout ça bien sûr au nom du bien-être, de notre bien-être. Lisa Mandel, l'auteur de bande dessinée marseillaise, s'est donné une année pour en finir avec toutes ses addictions. Elle raconte son expérience au jour le jour dans Une année exemplaire, une bande dessinée de 400 pages, éditée par elle-même.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Lisa Mandel, vous êtes à Marseille, mais vous êtes avec nous.
Bonjour Toufik, oui je suis à Marseille, je suis avec vous par le cœur.
Bon, alors vous vous êtes donc donné une année pour en finir avec toutes vos addictions, c'est-à-dire arrêter de picoler et de fumer, arrêter les gâteaux sucrés et les sandwichs gras, et tant qu'à faire, en finir également avec les addictions numériques, c'est-à-dire les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le cocooning avec chips salés et séries à portée de clic. Mais plutôt que de prendre prétexte du 1er janvier pour vous lancer dans cette aventure, Lisa Mandel, vous avez choisi le 15 juin, pourquoi pas?
Bah pourquoi pas, ça s'est trouvé comme ça, c'était une extrêmement mauvaise idée, mais j'ai pu ainsi passer un été un peu pourri, à boire du Perrier pendant que tout le monde buvait le pastis en terrasse. Mais oui, ça s'est fait comme ça, j'ai pris la décision de faire ce financement participatif, donc de commencer Absolument. Cette bande dessinée au début de l'été, et du coup je l'ai commencé.
Parce que c'est ça l'idée originale, pour relever le défi, vous prenez à témoin vos lecteurs et vous décidez avec un financement participatif de publier une page quotidienne sur les réseaux sociaux.
Voilà, exactement. J'ai décidé de m'auto-éditer complètement de A à Z pour ce projet. Et donc je suis passée par je vais pas dire que j'ai fait l'aumône parce que finalement c'est de la prévente, mais oui je suis allée prendre à partie mes lecteurs.
Alors entre juin 2019 et juin 2020, le monde va être bouleversé, notamment par la pandémie du Covid. Mais cela, vous ne pouvez pas le prévoir quand vous êtes lancée dans cette aventure, Lisa Mandel. Les pages publiées sur les réseaux sociaux donc ont été réunies dans ce livre auto-édité, une année exemplaire, et donc un livre pensé, écrit, édité et distribué par vous-même. vous-même, Lisa Mandel. On va autant parler des petites histoires de cette année exemplaire, donc de votre vie, Lisa Mandel, et comment vous avez traversé les grands bouleversements de l'année, la révolution au Liban, la crise sanitaire mondiale. Ben, on parlera aussi de l'histoire du livre, comment il fut conçu, imprimé, distribué en dehors des réseaux habituels. Mais d'abord, il faut dire à quel point c'est un livre très drôle, même si vous parlez de choses très graves, des choses très graves que nous avons tous partagées cette année, ça reste quand même de l'autofiction qui n'oublie pas de se moquer du genre, c'est-à-dire qui n'oublie pas de se moquer de l'autofiction.
Alors c'est vraiment autobiographique, hein. C'est pas de l'autofiction, tout ce que je raconte est vrai, mais effectivement il y a pas mal de voilà, je me moque pas mal de moi, il y a pas mal d'autodérision, c'est quelque chose contre lequel j'ai du mal à lutter, c'est-à-dire que dès que je commence à dessiner ce qui m'arrive, je peux pas m'empêcher d'en rire, aussi dramatique que cela puisse être, comme par exemple le fait que je sois épileptique. Par exemple, qui est pas quelque chose d'extrêmement joyeux, bah, j'ai réussi à en parler en rigolant un petit peu. Bah, bon, c'est pas systématique hein, que ce soit rigolo, mais voilà, j'ai essayé effectivement de parler de tous les sujets et même ceux qui a priori sont un peu lourds d'en parler avec un peu d'humour, quoi.
Pour en finir avec vos addictions, Lisa Mandel, vous avez décidé d'établir une liste de 20 commandements.
Oui, bah j'avais 20 commandements, dont effectivement ceux dont vous avez parlé, c'est-à-dire arrêter de picoler, de fumer. Bon, je fumais quand je buvais, donc ça fait un espèce de pack des deux. De manger n'importe quoi, c'était aussi faire du sport, c'était aussi être positif, c'était aussi, enfin j'ai effectivement arrêté de regarder des séries débiles, ne regarder que des chefs-d'œuvre. Enfin, je m'étais mis un cahier des charges absolument intenable, et en fait qui effectivement n'a pas été tenu à 100% puisque il y a eu un moment où je me suis sentie extrêmement mal et où j'ai été obligée de mettre de l'eau dans mon vin, enfin de l'eau dans mon Perrier plutôt, et où je me suis rendu compte en fait que mes addictions étaient aussi des béquilles qui m'aidaient à fonctionner correctement toute l'année et qu'elles avaient une utilité. Et puis c'est aussi une critique en creux, enfin pas qu'en creux, hein, des régimes et de l'espèce d'injonction à la perfection et au corps parfait. Voilà, c'est aussi une critique de tout ce système dans lequel on grandit, surtout quand on est une femme.
Et ces critiques sont venues au fur et à mesure que vous teniez votre journal, Lisa Mandel, ou c'était la chose à démontrer à travers cette histoire où vous vous mettez en scène en train d'essayer désespérément d'arrêter vos addictions?
Bah, en fait, je pensais sincèrement qu'avec en rendant mon défi public, j'arriverais à la fin de l'année avec un corps de rêve et une hygiène de vie irréprochable. Il se trouve que ça s'est pas du tout passé comme ça et qu'effectivement, je me suis retrouvée face à mes propres démons et les addictions n'arrivent pas par hasard. Oui, voilà, j'ai raté, mais je savais déjà dès le départ que je voulais pas parler, par exemple, de régime. Moi, pour moi, il était hors de question de faire un régime. C'est une façon d'aborder la nourriture que je déteste. Moi, j'ai grandi en faisant des régimes depuis que je suis assez enfant. Je suis au régime. Ma mère était au régime. Ma grand-mère était au régime. Et je vois bien les résultats que ça a eu sur moi, sur ma fratrie et sur ma famille. Et donc, je suis complètement contre le concept des régimes.
Pourquoi? Quels résultats ça a eu?
Bah, ça a eu qu'en fait, bah, comme 99% des gens qui font le régime, bah, plus, alors, sur le moment, on maigrit, puis après, on regrossit plus, enfin, on prend plus de kilos que ce qu'on avait perdu auparavant, et au fur et à mesure des années, on rentre dans une spirale où on fait le yo-yo, ce qu'on appelle le yo-yo, et on perd, on gagne, et on finit par se retrouver beaucoup plus gros que ce qu'on aurait été si on n'avait pas fait de régime dès le départ. Alors, parce que ça dérègle le corps complètement, en fait, les régimes. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des constatations de plein de spécialistes qu'en fait, on est programmé pour faire un certain poids, et que plus on fait du yo-yo, plus on grossit, plus le poids idéal du corps pour le cerveau augmente. Donc en fait, c'est une boucle sans fin de prise de poids, en fait.
Vous ressortez comment de cette année exemplaire? Quelles sont les addictions que vous avez pu éliminer, Lisa Mandel?
Alors, je ressors de cette année grandi et grossi, c'est-à-dire que quelque part c'est une victoire et c'est à la fois un échec. Donc j'ai pu me débarrasser définitivement, enfin je l'espère, de la cigarette. Ça, j'ai pas repris. Bon, j'étais fumeuse, mais je fumais pas énormément. Mais quand même, ça a été une grosse victoire. Mon rapport à l'alcool, en fait, n'était pas du tout névrosé pour le coup. Donc, bah, rien n'a changé. C'est-à-dire que quand j'ai recommencé à boire, je rebus de manière tout à fait raisonnable. Pour le reste, j'ai à peu près tout raté. C'est-à-dire que j'ai absolument pas du tout arrêté de regarder des conneries sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas arrêté de jouer à des jeux vidéo. Et puis, j'ai pas tellement fait plus de sport que je n'en faisais avant de commencer le défi. Mais par contre, j'ai réussi aussi le défi de faire une page par jour. Et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important. Et j'ai réussi aussi à comprendre mon propre mécanisme et comment, en fait, la vie avec un grand V prend le pas sur le nombrilisme et la vie avec un petit V de tourner vers soi-même, tel que j'avais appréhendé le projet. Puisque moi, au début, c'était vraiment un truc de développement personnel, quelque part. Et en fait, très rapidement, j'ai réussi à pas tourner en rond. Et en fait, je me suis pris aussi quelques claques qui ont fait que j'ai raconté ce que c'est d'être une personne qui vit une année et ce que c'est de suivre le quotidien de quelqu'un pendant un an. Et c'est là où c'est devenu intéressant. J'ai eu donc tant mieux pour ma trame narrative, tant pis pour l'humanité, mais il y a eu le Covid qui est arrivé aussi en plein milieu et qui a complètement chamboulé mon défi. Et puis bon, je me suis retrouvée aussi au Liban avec ma compagne, et puis il y a eu la révolution au Liban. Je me suis aussi retrouvée au Niger et il s'est passé des choses. Donc en fait aussi, la vie a fait que j'avais autre chose à raconter que juste le rapport à mon corps et à l'addiction.
Alors ça commence avec beaucoup d'humour, Lisa Mandel, mais alors comment on fait pour garder cette distanciation par l'humour quand on est rattrapé par des drames, par exemple par la pandémie du Covid ?
C'est, je pense, une culture, en tout cas c'est une culture familiale. Nous, on a toujours utilisé l'humour pour se protéger des drames de la vie, et en fait, ben simplement... Je sais pas comment vous dire, quand autant j'ai pas de recul et j'ai pas forcément d'humour sur moi-même dans la vraie vie, c'est-à-dire que je peux être susceptible, me vexer et me lamenter comme tout le monde, mais une fois que je prends mon stylo et que je raconte mon histoire, ce petit personnage qui est mon avatar et qui se met à exister sur le papier, il me fait prendre conscience de la vanité de la vie et comment tout est relatif et comment en fait on peut rire de tout. Et donc bah le Covid, il y avait quand même des choses un peu absurdes dans le début de la pandémie qui sont ressorties dans mon travail, mais effectivement avec la BD, moi j'essaye toujours de voir ça sous l'angle absurde et humoristique.
Mais votre vie intime, votre vie professionnelle, votre vie de tous les jours avec tous les tracas quotidiens sont racontés dans ce livre. Vous vous mettez à nu, Lisa Mandel?
Alors on va dire, je me mets en slip. À nu, pas tout à fait, puisque si vous remarquez bien, dans la BD, il est très peu question de sexualité, de sexualité, de sexe, de la mienne en particulier. Et ça, parce que pour moi, c'est ma véritable intimité, le tabou, il se situe un peu là. Donc j'ai pas abordé tous les sujets. Par exemple, ce sujet-là, je l'ai pas abordé.
Et faut mais dire on aussi, sait avec qui vous vivez, on connaît.
On sait avec qui je vis. Ah oui, oui. Non, j'ai raconté ma vie, mais pour autant, j'ai essayé d'éviter de faire du déballage. J'ai pas fait de déballage. J'ai essayé d'éviter l'exhibitionnisme. Après, oui, je raconte ma vie, je raconte mes tourments, mais qui sont quand même assez souvent quand même un peu ridicules. Et puis, oui, je parle aussi de mon quotidien. Mais pour autant, moi, j'ai pas l'impression d'avoir été transgressive par rapport à l'intimité. Je me suis protégée, quoi, quand même. J'ai choisi ce que je voulais raconter, mais c'est vrai que j'en ai raconté beaucoup.
Une année exemplaire, ça devient ironique hein, pour nous quand on lit la bande dessinée. Est-ce que au départ, ça l'était, ironique, le titre de votre bande dessinée?
Mais pas du tout, j'y croyais à 100%. Moi, j'étais sûre que j'allais faire une année géniale, que j'allais regarder tous les Tarkovsky que j'avais ratés, que j'allais vraiment m'épanouir intellectuellement, un esprit sain dans un corps sain. Moi, j'y croyais à fond. Et en fait, ça a foiré lamentablement, mais j'étais vraiment premier degré quand j'ai commencé. Je me suis dit, je vais y arriver, ça va être dur, mais je vais y arriver, je vais découvrir des nouvelles choses, je vais sortir transcendée de cette expérience. Et en fait, la vie s'est mise en travers de mon chemin, mais c'est presque philosophique, hein, comme parcours. Ça m'a fait changer quelque part, hein, mais pas dans le sens que je croyais.
On se réveille avec vous, on vit la journée avec vous, on voyage avec vous et on écoute même la musique que vous écoutez. Et là, Lisa Mandel, on est tombé sur un petit bijou de rock libanais des années 70, je crois. Et c'est vraiment très bien. On va l'écouter et on reprend cette discussion si vous voulez bien. You know my baby, you know. I don't
to be strong. I don't want to be young. Thinking about the guys who made all the troubles. Thinking about the guys who made only troubles. They ignore what they are doing. They ignore what they are doing. Do you love me?
Do you?
Do you need me?
Do you?
Do you want me?
Do you?
Do you? Do you love me?
Do you?
Do you need me?
Do you?
Do you want me?
Do you?
Do you love me?
Do you?
Do you need me?
Do you?
Do you want me?
Do you?
Do you love me?
Do you?
Do you need me?
Do you?
Do you want me?
Lisa Mandel, mais qui chante? C'est incroyable.
Ouais, c'est dingo. Hein. Moi, j'ai découvert ça grâce à Léna. Elle, je la trouve vraiment sorcelante, cette chanson. Elle est hypnotique. Et c'était une famille. Hein, le nom m'échappe là tout de suite. Mais c'était une famille qui chantait tous ensemble. C'était juste avant la guerre, je pense. Et en plus, le clip est vachement bien. Je conseille à tout le monde d'aller le voir parce qu'ils sont simplement sur la corniche à faire de la musique tous ensemble.
Mais c'est Band Ali Family, vous avez oublié.
Voilà, c'est ça.
Do You Love Me, Band Ali Family. Une année exemplaire, c'est le titre donc de votre bande dessinée, ou Comment vaincre ses addictions en 365 jours, une bande dessinée que vous avez auto-éditée et que vous vendez en ligne ou dans quelques librairies. Expliquez-nous, Lisa Mandel, comment vous êtes lancée dans l'auto-édition, parce que généralement l'auto-édition, c'est l'affaire des jeunes auteurs qui commencent, qui ont du mal à trouver des grands éditeurs. Vous êtes publié par les grandes maisons d'édition de bande dessinée, et pourtant vous avez décidé pour ce projet de vous lancer toute seule et dans l'auto-édition.
Alors en fait, effectivement, je l'ai pas fait par défaut, parce que je suis déjà éditée et j'ai déjà des éditeurs avec qui je travaille depuis longtemps, mais pour autant j'avais envie d'essayer en fait de suivre en fait la chaîne du livre d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de la conception d'un livre jusqu'à sa naissance, et puis même changer quelques couches au passage, au lieu de laisser ça en fait à mon éditeur comme je le fais habituellement. Et effectivement, l'auto-édition, c'est plutôt le travail de jeunes auteurs ou d'auteurs confirmés, mais qui ont envie de faire des projets très radicaux, qui ne trouvent pas leur place chez leurs éditeurs traditionnels. Moi, j'ai voulu faire une BD plus ou moins mainstream, la prendre en charge complètement. Pourquoi ? Parce que donc il y avait cette curiosité de connaître un peu toutes les facettes, et aussi parce que je pense que la situation des autrices et des auteurs aujourd'hui, elle est de plus en plus précaire, et que j'avais quand même cette petite curiosité de voir si j'arriverais à m'en sortir au niveau logistique et au niveau financier en faisant finalement le bouquin toute seule. Et donc je me suis lancée un peu comme ça. Dans un brin de folie, mais quand même pas mal prévenu par les autres qui dont plusieurs avaient des expériences plus ou moins malheureuses dans l'auto-édition. Donc j'ai eu beaucoup de conseils qui m'ont servi tout au long de ce bouquin, quoi.
Et alors aujourd'hui, bilan de cette expérience?
Alors c'est effectivement extrêmement compliqué d'auto-éditer. Enfin extrêmement compliqué, c'est extrêmement contraignant parce qu'il faut il faut s'occuper de tout, faut avoir plein de casquettes, faut faire le suivi de fabrication, être en contact à la fois avec l'imprimeur et à la fois avec les libraires, mais ne pas oublier de répondre à ces lecteurs qui commandent des livres individuellement sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est compliqué. C'était compliqué de faire tous les paquets parce que comme j'avais fait un financement participatif, et ben après il a fallu envoyer les livres à tout le monde. Il y a toujours des livres qui n'arrivent pas, alors on doit gérer les retours, on fait du secrétariat. Donc tout ça, c'est quand même compliqué. Après, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que effectivement, j'ai signé de contrat à personne, à part avec moi-même. Et j'ai eu des droits d'auteur démultipliés, forcément, puisque je me suis occupée de tout. Et au niveau financier, ce qui n'a pas été rentable, si vous voulez, c'est que j'ai fait une page par jour pendant un an. Mais ça, j'aurais eu la même chose chez un éditeur, c'est-à-dire que j'ai énormément produit. Donc ça, c'était pas forcément rentable. Par contre, le résultat, là, l'argent que j'ai recueilli aujourd'hui beaucoup plus, un tiers ou la moitié de plus que ce que j'aurais eu avec une avance normale chez un éditeur classique. Et l'argent est le mien, c'est-à-dire que c'est pas une avance sur droit que je dois rembourser, c'est mon argent. Parce que donc nous les auteurs on a des pourcentages sur les livres, mais on est payé en avance sur droit qui sont plus ou moins importantes selon notre notoriété et selon l'éditeur chez qui on publie. Mais en gros, oui, moi j'ai gagné plus d'argent en auto-publiant mon livre. Après j'ai beaucoup plus travaillé aussi, donc c'est normal.
Et vous avez contacté des librairies pour mettre votre livre en vente?
Tout à fait. Alors j'ai contacté pas mal de librairies pour leur demander s'ils étaient intéressés par mon livre. Alors heureusement, j'ai quand même presque 20 ans de carrière derrière moi, donc beaucoup de libraires me connaissent. Donc ça a été, je pense, plus simple peut-être que pour quelqu'un de complètement inconnu d'être acheté. Après j'ai réussi en discutant avec des amis libraires, en discutant avec des éditeurs, j'ai essayé de trouver une formule qui conviendrait aux libraires, qui serait pas en leur défaveur et enfin où on sortirait tous gagnants du truc. Donc moi j'ai fait de la vente ferme à part sur Paris, parce que Paris j'y reviens souvent et que je peux aller faire la popote, la tournée des popotes. Mais j'ai fait de la vente ferme, mais avec des droits, avec des remises libraires qui étaient intéressantes pour les libraires, en offrant les frais de port, ce que je propose toujours d'ailleurs. Et voilà. Mais après, c'est clair que j'étais pas dans toutes les librairies, que j'ai été dans là, je suis dans une quarantaine de librairies en France, voire une cinquantaine, et que je vends beaucoup moins de livres en librairie que ce que j'aurais vendu chez un éditeur. Mais étant donné que je gagne beaucoup plus d'argent, j'ai besoin de vendre moins de livres. Donc c'est un cercle un peu vertueux, un peu étonnant et vertueux à la fois, c'est-à-dire que j'ai vendu peut-être 5 fois moins de livres, mais j'ai gagné plus d'argent.
Et vous allez continuer dans cette expérience de l'auto-édition?
Oui, j'avoue que j'y ai goûté, que j'ai aimé. Et donc, non seulement je vais continuer, mais en plus, je suis en train de réfléchir à la création d'une structure alternative qui serait un peu à cheval entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle, et pour permettre, en fait, une meilleure répartition des droits pour les artistes-auteurs, parce que moi et bien d'autres pensons qu'aujourd'hui, la répartition des droits, elle est pas suffisante pour nous permettre de vivre correctement. Quand je dis nous, je parle pas forcément pour moi, qui arrive avec donc une carrière qui commence maintenant à être un petit peu longue, qui ai eu la chance d'avoir toujours des éditeurs qui ont cru en moi et qui m'ont suffisamment payé. Mais néanmoins, j'ai signé, comme tout le monde, des contrats complètement désavantageux. Et j'ai des avances sur droit qui parfois ne m'ont... Si vous voulez, moi, je fais partie des auteurs qui vivent tout le temps avec l'avance sur droit du prochain album. C'est-à-dire que quelque part, il y a un équilibre qui est complètement dans le déséquilibre. Donc voilà, aujourd'hui, je réfléchis à cette façon de travailler qui est finalement une édition où l'auteur revient au centre de son œuvre et a plus de responsabilités, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, hein, mais à la fois récolte plus de fruits de son travail, s'investit plus, et on a un groupe d'experts qui sont au service de l'auteur, aussi au service du livre. Surtout, on est tous au service du livre et tout le monde est payé en pourcentage des ventes, quoi, en gros. Donc ce projet-là, j'en parle parce que d'ici quelques jours, il va être rendu public, puisque je lance de nouveau un financement participatif autour de ce projet. Donc là, le financement se lancera là dans quelques jours.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Lisa Mandel. Je rappelle qu'une année exemplaire, si on peut pas le commander chez son libraire, on peut toujours le commander en ligne, bien sûr.
Tout à fait, sur le site lisamandel.fr.
Merci Lisa Mandel.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, prise de son Pierre Montaigne, et c'est une émission réalisée par Vincent Abouchard. On se retrouve lundi, passez un excellent week-end.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce vendredi sur France Culture, le cinéaste David Cronenberg.
Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Son parcours, ses influences, ses méthodes de travail depuis ses débuts dans le cinéma, mêlant horreur et science-fiction, ses adaptations de Stephen King ou Don DeLillo jusqu'à son dernier film en date, Map to the Stars, présenté à Cannes en 2014. Pourquoi ce silence depuis ? Nous lui poserons aussi cette question.
Affaires culturelles, ce vendredi à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le 18 novembre 2015, j'ai été réveillé par des coups de feu.
Sur France Culture, une histoire particulière, Antoine Tricot.
Au 48 rue de la République à Saint-Denis, à quelques pas de chez moi, la police lançait l'assaut contre deux terroristes retranchés dans un appartement. 5 ans plus tard, l'immeuble est toujours à l'abandon. Et tous les jours, en passant devant, je me demande ce qu'il s'est passé durant cette nuit de guerre. Je me demande aussi pourquoi les traces de ce tragique événement sont encore à vif au cœur de ma ville.
Une histoire particulière, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Triste record aux États-Unis face au Covid-19 dans le pays le plus touché au monde en valeur absolue. Encore 2000 morts en 24 heures à cause de la pandémie. Nous irons dans le Dakota du Nord dans un instant. Pendant ce temps, en France, le ministre de la Santé mettait en garde hier, pas de déconfinement à la fin du mois. Une baisse des contaminations ne veut pas dire que les chiffres sont bas, dit-il. Amazon France attendra la réouverture de tous les commerces pour son Black Friday. En tout cas, le géant de la vente en ligne repousse cette journée de braderie d'une semaine. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis direction l'Irak où des dizaines de milliers de déplacés retrouvent leur terre en ce moment après la guerre contre le groupe État islamique. Aux États-Unis, l'épidémie de Covid-19 semble hors de contrôle dans plusieurs États. Le pays a enregistré près de 12 millions de cas. On recense 252 000 morts, dont 2 000 hier, chiffre inégalé depuis mai dernier. Les autorités sanitaires encouragent les Américains à ne pas voyager la semaine prochaine pour les fêtes familiales de Thanksgiving, alors que l'épidémie est en phase exponentielle dans le pays. C'est particulièrement le cas dans plusieurs États du Midwest et notamment l'État rural du Dakota du Nord. État très peu peuplé, mais qui connaît en ce moment un taux de mortalité élevé, comme l'explique ce reportage de Grégory Phillips.
Les télévisions locales donnent chaque soir le nombre de contaminations. Et dans cet état très peu peuplé, moins de 800 000 habitants, le Dakota du Nord est surtout connu pour ses grandes plaines désertiques. Les chiffres sont affolants. Près d'un millier de morts, entre 1 500 et 2 000 contaminations quotidiennes. Le gouverneur impose donc de nouvelles mesures, comme le port du masque obligatoire. Nos chiffres nous imposent de nouvelles règles, dit le républicain Doug Burgum. Nous devons inverser cette tendance dangereuse et éviter, si possible, la fermeture de l'économie locale. Depuis 2 semaines, le petit État du North Dakota est celui qui, aux États-Unis, connaît le taux de contamination le plus élevé du pays. Un habitant sur 79 a été testé positif. Le maire de la ville de Minot, 80 000 habitants, est inquiet. Quand les températures ont commencé à baisser, les gens ont organisé des choses à l'intérieur, des mariages, des soirées dans des bars, des rassemblements, créant des foyers de contamination. L'autre problème que l'on a, ce sont les personnels médicaux. Beaucoup sont tombés malades ou sont cas contact. C'est un vrai défi. La plupart des 47 hôpitaux du Dakota du Nord sont saturés. Des infirmiers militaires de l'US Air Force viennent d'arriver sur place pour prêter main forte aux équipes débordées.
C'était Grégory Phillips. En France, le nombre de patients arrivant à l'hôpital à cause du Covid-19 diminue pour la 3e journée consécutive. Mais même si les chiffres vont dans le bon sens, le confinement n'est pas terminé, rappelle Olivier Véran, ministre de la Santé. Il tenait hier soir son point de presse hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie et il prévenait.
Le confinement n'est pas terminé et ce n'est pas d'actualité de déconfiner le pays. Nous devons poursuivre nos efforts pendant toute la durée nécessaire pour casser l'épidémie, vaincre le virus. Nous l'avions fait au printemps dernier. Nous y arriverons et nous retrouverons une vie beaucoup plus normale ensuite. Ce n'est pas parce que le niveau de la marée est en train de baisser qu'on peut déjà sortir en toute quiétude dans la rue, si je devais faire une métaphore. C'est-à-dire que nous sommes encore avec une pression épidémique qui est importante. Imaginez qu'avec aujourd'hui quelques 22 000 ou 23 000 cas diagnostiqués aujourd'hui, nous sommes finalement au moment de pression épidémique qui, quand on regarde avant le confinement, correspondait déjà à la mise en place du couvre-feu dans un certain nombre de métropoles et précédait de quelques jours l'annonce par le président de la République du confinement. Donc c'est pas parce que ça baisse que c'est bas.
Olivier Véran qui intervenait hier soir avec la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon. Elle a demandé aux EHPAD de tester leurs salariés chaque semaine. Après Carrefour et Leclerc, c'est au tour d'Amazon France de renoncer au Black Friday le 27 novembre, dans 8 jours. C'était une revendication des petits commerçants fermés pendant le confinement. Ils souhaitaient pouvoir participer à cette braderie commerciale. Elle pourra se tenir le 4 décembre, une semaine plus tard. Le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, l'annonçait hier soir sur TF1.
Aujourd'hui, comme d'autres distributeurs en France, en écoutant les recommandations du gouvernement, nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre. Et donc, cette année, le Black Friday aura lieu le 4 décembre et nous servirons l'ensemble des Français partout sur le territoire et nous serons aussi un support à l'ensemble des milliers de TPE et PME qui vendent par notre intermédiaire.
Voilà pour la concession affichée d'Amazon France, preuve que la pression politique paye selon les syndicats. Bercy avait en effet demandé un geste aux géants de la vente en ligne. Concernant la proposition de loi sur la sécurité globale, est-ce vraiment une concession de la part du gouvernement? Un amendement sera déposé pour l'article 24 qui encadre l'image des policiers et des gendarmes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va proposer de souligner que cette disposition est sans préjudice de l'intérêt légitime du public à être informé. Explication d'Antoine Marette.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 24 prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou gendarme en intervention lorsque cette diffusion a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Une mesure très contestée, pas simplement à la gauche de l'hémicycle, mais également parmi les journalistes qui craignent de ne pouvoir couvrir sereinement les manifestations et les éventuelles bavures des forces de l'ordre. Face à ces polémiques, Gérald Darmanin va donc retoucher l'article pour le maintenir et le faire voter par la plus large majorité. Un amendement gouvernemental va préciser que le texte ne fait pas obstacle à la liberté d'informer et il va davantage caractériser l'intention de nuire aux forces de l'ordre, le « en même temps » façon Darmanin, faire un pas en direction des opposants, sans tourner le dos aux policiers et aux gendarmes. Un nouveau pas, puisque le ministre de l'Intérieur a déjà dû reculer sur un souhait, celui d'imposer le floutage des forces de l'ordre.
Antoine Marette pour France Culture. Venons-en maintenant au procès de l'attaque du Thalys devant la cour d'assises spéciale de Paris en ce moment. La cour devrait entendre aujourd'hui les deux militaires américains qui ont maîtrisé le terroriste en août 2015 dans le train Thalys. Mais hier déjà, les autres passagers ont raconté l'effroi qu'ils avaient vécu, Florence Turm.
D'abord, le récit croisé de Marc et Isabelle Mougalian, ce couple franco-américain installé en première classe, voiture 12. Il s'est emparé de la kalachnikov du tueur, a pris une balle dans le dos, elle a cru le voir mourir. Sa voix se brise à la barre quand elle revit la scène. La jugulaire était atteinte, j'ai paniqué, il y avait du sang partout, la moquette bleue du Thalys est devenue noire et je ne savais plus quoi faire. Elle salue le courage de Spencer Stone qui va maîtriser l'assaillant et stopper l'hémorragie. Spencer, il m'a sauvé la vie, acquiesce son épouse. À la barre. Reste le traumatisme. Pour lui, enseignant et guitariste émérite, l'impossibilité d'utiliser correctement sa main gauche et des réactions de suspicion qu'il se reproche. J'essaie d'avancer, de laisser tout cela derrière moi. Pour elle, qui donnait des cours de français à des expatriés, une phobie des transports et une hypervigilance toujours active malgré un suivi thérapeutique. Mais le procès, les attentats, l'anniversaire de cette attaque ravive à chaque fois la blessure. Ça a été une plongée dans ce que l'être humain a de plus sombre, explique Isabelle Mougalian. Quelque chose que je ne comprends pas, en contradiction avec mes valeurs fondamentales qui me dépassent complètement. Le film de Clint Eastwood, dans lequel le réalisateur américain leur a demandé d'incarner leur propre rôle, demeure pour eux une expérience positive. Au milieu de cette audience douloureuse, Isabelle Mougalian livre une dernière pointe d'humour. Je ne voulais pas qu'ils mettent une actrice complètement hystérique à ma place. Donc je l'ai fait aussi pour ça, par fierté.
C'était Florence Turm. Comme promis, nous partons à présent en Irak où des habitants qui avaient fui les combats contre Daesh en 2014 reviennent par dizaines de milliers sur leurs terres. 34 000 depuis juin par exemple dans la région du Sinjar à l'extrême nord-ouest du pays. C'est là que s'est rendue notre correspondante Lucille Wasserman.
Barzan Farez est un jeune père yézidi de 7 enfants. Après 6 ans d'exil, il a fait le choix de revenir s'installer à Sinjar, sa ville natale. Son ancienne maison a été complètement détruite dans les combats en 2014 contre Daesh. Cheveux courts et noirs, le regard brillant, il erre dans le nouveau domicile qu'il vient d'acheter et reconstruit.
Après 6 ans loin d'ici, où que vous soyez, quelle que soit la qualité de votre vie, votre terre, votre ville natale, votre chez-vous, vous manque toujours, tout le temps.
Outre le désir de retour et récemment la fermeture des camps de déplacés en Irak, le coronavirus semble avoir été un moteur pour ces Irakiens.
Certains ont eu peur que les checkpoints ferment à nouveau et que les déplacements ne soient plus autorisés entre les gouvernorats, les empêchant de voir leurs familles qui vivaient dans des camps. Alors ils ont ramené leurs familles à Sinjar.
Reste que sur place, les habitants font toujours face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. Daesh est parti de la ville, mais le groupe a été remplacé par une longue liste de forces armées concurrentes, dont des milices.
Je ne sais pas qui pointer du doigt, car il y a tant de forces, tant de tensions politiques ici. Les gens ont peur à cause de ces tensions entre groupes armés.
À l'heure où ces déplacés prennent le chemin du retour, le besoin de reconstruction et d'apaisement semble plus impérieux que jamais. Mais Barzan, lui, se dit résigné. Il a déjà attendu 6 ans que le gouvernement prenne les devants. Sans succès.
Lucille Wasserman en Irak, où le gouvernement demandait par ailleurs hier soir une présence militaire américaine continue sur son territoire. La moitié du contingent doit se retirer d'ici fin janvier. Le temps sera sec mais nuageux ce vendredi en France métropolitaine. Ce matin, il fait frais, 3 à 11 degrés du nord au sud. C'est l'heure du journal des idées à 6h40 avec Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Bonjour, Clara Le Coq-Réal.
Jacques, plus de 6 semaines après les ravages de la tempête Alex dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, la remise en état des lieux n'a guère avancé.
Eh oui, même si l'eau potable et l'électricité ont été rétablies, la vie quotidienne reste très difficile, notamment les transports sur une piste de fortune attendent certains habitants. Ont commencé à partir, d'autres se demandent s'ils vont revenir. Dans les pages idées de Libération, la géographe Magali Regeza-Zit convient que l'événement météorologique a été particulièrement intense, dans des proportions inédites depuis qu'on les mesure, mais les épisodes méditerranéens sont toujours très violents, souligne-t-elle, et ils se produisent régulièrement dans ces territoires. Le réchauffement climatique a sans doute également joué, car les eaux de la Méditerranée sont de plus en plus chaudes. Spécialisée dans les notions de risque, de vulnérabilité et de résilience, la géographe propose de repolitiser la notion de risque, car ces événements vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Aujourd'hui, dit-elle, un Français sur 4, soit 17 millions de personnes, vit en zone inondable, soit par la mer, soit par les fleuves, soit par les nappes phréatiques, soit par le ruissellement urbain. D'où la question, celle de l'habitabilité des territoires. Quel est le prix humain, économique et social que nos sociétés sont prêtes à payer pour continuer d'habiter certaines zones avec une sécurité maximale? Il y aura dans l'avenir, estime la géographe, de nécessaires arbitrages entre le besoin de logement, le maintien des activités économiques et le coût de leur déplacement ou celui des populations en cas de catastrophe. Le risque environnemental appelle de nouvelles formes de solidarité. Il faut assumer les conséquences de nos choix au lieu de subir celles de notre absence de choix, dit-elle aussi. Cela suppose de modifier nos comportements, se déplacer autrement, cultiver la terre autrement, construire autrement. La dernière livraison de la revue Technique et Culture est consacrée au biomimétisme, un ensemble de pratiques imitant la nature pour inventer et construire des objets ou des procédés utiles pour les humains. Moins destructeurs pour l'environnement, ils sont susceptibles d'apporter des solutions durables, notamment face aux catastrophes naturelles. On sait que la canalisation des cours d'eau favorise les inondations lorsqu'ils ne peuvent pas s'étaler en crue sous l'effet d'intenses précipitations. Marie Lusson, chercheuse en sociologie des sciences à l'INRA, étudie un projet original de restauration d'une rivière, le Vistre, responsable de fréquents débordements en Camargue, à l'aval de son cours. Par ailleurs, le Vistre reçoit les eaux usées, chargées en intrants agricoles et développe de graves phénomènes d'eutrophisation. Ces eaux usées favorisent l'invasion des algues qui, en se décomposant, produisent des bactéries qui consomment l'oxygène et tendent à asphyxier le milieu. La technique encore balbutiante et qui constituait un gros chantier consiste à s'inspirer d'autres écosystèmes fluviaux pour réparer la rivière, notamment en lui ouvrant un nouveau tracé comportant des méandres. Ceci entraînant une diversité d'écoulements et de faciès à même d'accueillir des espèces différentes, propres aux eaux calmes ou au contraire courantes. La biodiversité est également favorisée sur les berges par la plantation de végétaux à plusieurs niveaux, roseaux ou iris, familiers des zones humides au pied des berges, saules ou tamaris au-dessus, arbustes comme les pruneliers ou les sureaux à l'étage supérieur, et sur le haut des berges, frênes, peupliers ou érables viendront naturellement, car c'est la capacité des écosystèmes à se développer de manière autonome qui est aussi testée. Ce potentiel d'action des non-humains, faune et flore, selon une méthodologie du laisser-faire. Résultat, on a vu revenir les castors, ces architectes de paysages hydrographiques, espèces protégées depuis 1968, par leurs coupes dans la végétation des rives, leurs aménagements dans l'habitat aquatique. Les castors créent de nouveaux milieux, accroissant la diversité des espèces locales. Et même si les agriculteurs les regardent de travers quand ils dégustent les épis de blé des champs voisins ou utilisent les tiges pour bâtir des abris, les pêcheurs, qu'ils peuvent être aussi à l'occasion ces agriculteurs, se réjouissent du retour des goujons, des barbeaux, des ablettes, tanges, brèmes ou gardons qui nous incitent à imaginer une politique dans laquelle les non-humains auraient de l'espace et du temps pour agir. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez du retour au pays d'un président déchu, Evo Morales, en Bolivie.
Oui, c'était la semaine dernière et cela restera comme l'une des images marquantes de ce mois de novembre 2020. Le retour triomphal de l'ancien président bolivien dans son pays après un an d'exil. La situation politique a changé, évidemment, depuis la crise politique de l'automne dernier. Une élection présidentielle a eu lieu et elle a été remportée haut la main par le dauphin d'Evo Morales. Luis Arce, c'est son nom, ancien ministre de l'économie. C'est lui qui était l'artisan du miracle économique bolivien pendant les années Morales. Et c'est un homme qui est à l'exact opposé de l'ancien président, c'est un gestionnaire et absolument pas charismatique. Alors il est trop tôt évidemment pour dire si Evo Morales en a fini avec la politique, c'est du moins ce qu'il avait annoncé il y a un certain temps, mais on peut se demander si le contraste qui existe entre les deux hommes ne serait pas symbolique d'un changement d'époque dans le pays, en tout cas de la fin d'une ère marquée par la domination d'un chef charismatique. Et on peut se demander aussi si ce constat bolivien ne vaudrait pas pour un certain nombre de pays de la région. Les grands leaders, notamment les leaders de gauche des années 2000, ont tous ou presque été balayés. Aujourd'hui, la contestation qui s'exprime dans les sociétés civiles latino-américaines vient de la rue, comme ce fut le cas récemment au Chili. Bonjour Olivier Compagnon. Olivier Compagnon, bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour.
Bonjour, vous êtes historien, directeur du CREDA.
Oui, je suis là.
Le Centre de Recherche et de Documentation des Amériques de l'Université Paris 3. Olivier Compagnon, ce retour triomphal d'Evo Morales en Bolivie il y a quelques jours, c'est une image forte qui contraste assez nettement avec les conditions de son départ il y a un an. Est-ce que tous les malentendus politiques ont été levés entre Morales et les Boliviens ?
Alors, je ne suis pas certain que tous les malentendus soient levés, et notamment que tous les malentendus soient levés entre Morales et le nouveau président bolivien, Luis Arce. C'est vrai que là, on a une histoire qui a commencé en 2016, en fait, lorsque Morales, qui était au pouvoir alors depuis 10 ans, a essayé de modifier la constitution de 2009, qu'il avait lui-même promue, pour pouvoir se faire réélire, et il a perdu ce référendum, ce qui demandait effectivement à prouver que les Boliviens avaient besoin d'alternance, en quelque sorte. Ça ne l'a pas empêché de se présenter à la présidentielle de 2019, dont on connaît la fin, puisque bien qu'il ait été alors, largement gagnant.
Olivier Compagnon, je crois que la connexion n'est pas tout à fait bonne avec vous. Ce sont les aléas de la radio à distance en cette période de confinement. On va vous rappeler sur une ligne de téléphone. Donc, on parle du retour du triomphal d'Evo Morales en Bolivie. C'était il y a quelques jours. Je le disais, une image assez forte qui contraste donc avec les conditions de son départ. Olivier Compagnon, historien spécialiste de l'Amérique latine, nous parlait des malentendus avec Luis Arce. Olivier Compagnon, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ?
Je suis là.
Voilà, donc voilà, nos auditeurs auront remarqué que vous êtes cette fois-ci par téléphone, mais pour la communication et pour la qualité de l'échange, c'est peut-être un tout petit peu mieux. On parlait des malentendus entre Luis Arce et Evo Morales.
Effectivement, donc je ne suis pas certain que le malentendu soit complètement levé puisque entre les deux hommes, puisque effectivement le retour d'Evo en provenance d'Argentine a été l'occasion d'une manifestation populaire absolument gigantesque, qui était une manière de poser un rapport de force pour Morales. Mais de son côté, Arce a bien affirmé, dès sa prise de pouvoir, qu'il gouvernerait sans Evo, que Evo avait joué un rôle essentiel dans l'histoire récente à la fois du parti, hein, le mouvement au socialisme, mais aussi de la Bolivie, mais que ce temps était révolu et qu'aujourd'hui, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait dans la construction d'un socialisme bolivien.
Est-ce qu'on peut parler, Olivier Compagnon, d'une certaine forme de maturité d'une société civile, la société civile bolivienne, qui se serait affranchie d'une figure tutélaire? On a bien vu il y a un an que c'était la figure d'Evo Morales qui était remise en cause. Aujourd'hui, c'est son programme politique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait qui était plébiscité dans les urnes. 55% des voix au premier tour, c'était un score extrêmement important pour Luis Arce. Est-ce qu'il y a donc cette maturité d'une société civile qui ne souhaite plus s'en remettre à un leader charismatique?
Alors moi, je ne suis pas certain qu'il s'agisse de maturité. Je crois qu'il y avait simplement, je dirais, des phénomènes classiques du politique, à savoir l'usure du pouvoir, et puis aussi sans doute des erreurs qui ont pu être commises par Evo, notamment la volonté d'aller au-delà de sa propre constitution, justement, en tentant de se faire réélire. Mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse exactement d'une maturité. En tout cas, ce n'est pas forcément en ces termes-là que je le formulerai. En revanche, ce qui est certain, et ce que vous disiez dans votre introduction, c'est qu'il y a aujourd'hui, en Bolivie, comme ailleurs, et l'exemple du Chili est excellent de ce point de vue, une suractivité de la société civile, toute une série de mouvements sociaux qui, effectivement, tendent à reléguer au second plan, dans un certain nombre de contextes du moins, la figure du leader charismatique, presque messianique, qui viendrait effectivement donner son âme à l'avenir de la nation. Il y a quelque chose sans doute qui change, ce qui ne veut pas dire nécessairement que partout, cette figure du leader charismatique est en train de disparaître.
Alors, quel rôle elle remplit, cette fonction du chef charismatique? Quel rôle ça a? Est-ce qu'il y a dans ces pays latino-américains, qui ont été marqués notamment par des grandes figures, je disais tout à l'heure plutôt des figures de gauche, est-ce qu'il y a peut-être un déficit dans le rôle des partis, un déficit de la représentation aussi pour créer des transitions qui se passent bien, pour que ces chefs puissent nommer aussi leurs successeurs, pour qu'ils aient aussi, eux, envie de laisser la place après avoir effectué parfois un, deux mandats éventuellement? Est-ce qu'il y a cette crise politique à l'origine?
Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse. D'abord, c'est vrai que pendant ce qu'on a appelé le virage à gauche, on a vu beaucoup de problèmes de succession, c'est-à-dire qu'on avait des grandes figures comme Chavez, comme Correa, qui à un moment donné, ou bien ont outrepassé la Constitution pour se faire élire une troisième fois, une quatrième fois, ou bien ont tenté de céder le pouvoir. Ça a été le cas de Correa, qui cède le pouvoir à son vice-président Lénine Moreno, et qui de fait se retrouve dans une opposition, puisque c'est ce qui s'est passé, hein. Moreno a commencé à gouverner en Équateur à l'inverse, en quelque sorte, de ce qu'avait fait Correa. Et là, effectivement, on peut noter toute cette série de problèmes de succession qui sont liés au fait que le projet politique tenait beaucoup à l'image d'un homme ou à la relation qu'un homme pétissait avec la société civile. Mais on a aussi toute une série d'autres grilles d'interprétation, plutôt de nature historique. D'abord, sans s'y arrêter trop longtemps, la vieille figure du caudillo, c'est-à-dire en fait une tendance de la vie politique latino-américaine depuis le 19e siècle à une très forte personnalisation du pouvoir. Et puis d'autre part, comme vous le disiez, et ça c'est fondamental, on a une crise de la représentation politique qui n'est pas récente. Vous allez me dire, oui, en Europe aussi aujourd'hui, certes, mais en Amérique latine, c'est vraiment un phénomène qui a été parfaitement identifié dès les années 90, dès une époque en fait où les grands partis alternaient au pouvoir, mais en gros mettaient en œuvre la même politique d'ajustement structurel. Et c'est ça qui a permis l'émergence, à la fin des années 90, au début des années 2000, de ces figures d'outsiders, Chavez, Correa, Morales, qui effectivement ont renouvelé en quelque sorte le paysage politique. Et je ne pense pas que ces grandes figures charismatiques aient complètement disparu aujourd'hui. Comme vous le disiez, il y en a à droite. Dans une certaine mesure, Bolsonaro est une grande figure charismatique qui avait changé de parti plusieurs fois pendant sa carrière, qui se présente en 2018 pour un parti qui est un parti relativement anonyme, hein, le Parti Social Libéral, et qui finalement, aujourd'hui, a 40% d'opinion favorable, et malgré les résultats assez décevants de son parti ou des candidats qu'il soutenait au municipal, reste aujourd'hui aujourd'hui une figure, la grande figure dominante du paysage politique brésilien.
Alors Jair Bolsonaro, hein, Olivier Compagnon, on peut parler aussi du président mexicain AMLO, par ses initiales, Andrés Manuel López Obrador. Alors lui, c'est un peu le dernier dinosaure, si l'on peut dire, d'une ancienne génération politique. Mais alors, il y a quand même ce décalage avec une base politique. Quand on voit les remarques qu'il peut faire sur un certain nombre de mouvements qui viennent de la base militante, notamment les féministes, est-ce qu'il n'y a pas aussi, la permanence d'un leader charismatique qui est AMLO aujourd'hui au Mexique, donc on est quand même dans un contexte qui est un peu différent de celui du reste de l'Amérique latine, mais avec donc ce décalage dont je parle, avec peut-être une difficulté à se faire comprendre de cette base militante.
Oui, en tout cas, d'une partie de la base militante, l'une des caractéristiques des 10 dernières années, c'est effectivement la fragmentation des mouvements sociaux, l'émergence de toute une série de revendications qui peuvent être, comme vous le citiez à l'instant, des revendications féministes, mais aussi des revendications de groupes indigènes ou de revendications liées aux enjeux du développement durable et de la préservation de l'environnement. Et à un moment donné, ces grands leaders et d'autres formes de gouvernement, disons, ont du mal à concilier l'ensemble de ces exigences. C'est ce qu'on a vu, l'ensemble de ces demandes sociales. C'est ce qu'on a vu très bien dans l'expérience de Morales, justement. On le voit aujourd'hui au Mexique et on le voit dans la plupart des cas. Mais là encore, ça ne signifie pas, je crois, que le temps de cette personnalisation du pouvoir soit complètement révolu. Et on le voit d'ailleurs dans de nombreux autres pays qui sont moins sur le devant de la scène. Aujourd'hui, au Salvador, on a un président qui s'appelle Nayib Bukele, qui est véritablement en rupture avec la classe politique traditionnelle, qui est très jeune, et qui est en train, effectivement, de s'imposer comme une figure ultra-dominante de la vie politique salvadorienne, qui vient d'un parti traditionnel, mais qui l'a quitté avec perte et fracas en 2017, qui gouverne de manière relativement autoritaire, qui court-circuite le Parlement, qui promulgue ses décrets sur les réseaux sociaux, et qui tend à créer de nouveau ce type de relation qu'on a bien connu en fait dans l'histoire de l'Amérique latine, directe entre le leader et, je dirais, la société civile, l'électorat, ses bases sociales.
Donc c'est une thématique qui a encore une certaine actualité. Effectivement, on en reparlera sur cette antenne et dans cette émission. Merci Olivier Compagnon. Je rappelle que vous êtes historien, directeur du CREDA, le Centre de Recherche et de Documentation des Amériques de l'Université Paris 3. Merci d'avoir répondu à nos questions pour les enjeux internationaux, avec de petits soucis techniques, mais ça fait partie des aléas du direct. Et je signale à nos auditeurs que lundi, c'est Julie Gacon qui sera de retour à ce micro. Bonne journée à tous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Jamais la problématique islamique n'a été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci.
Sur France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Entre la surmédiatisation et la méconnaissance, l'émission Question d'islam aborde ce sujet avec calme, sérénité, distanciation, discernement.
La formation des imams avec Ahmed Sfaxi, chercheur en sciences de l'éducation, ce dimanche à 8h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver. Guillaume Erner, bonjour.
Mais bonjour Antoine Dulster, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre billet d'humeur aujourd'hui, on peut enfin croire au miracle.
Bah oui, vous savez, il y a les contes de Noël et les contes du capitalisme. La différence entre l'un et l'autre, c'est que les premiers sont immuables et les seconds modulables. On peut pas modifier la date de l'entrée de l'enfant Jésus dans la crèche, mais on peut repousser la date du Black Friday à une période plus propice, la semaine d'après par exemple, il suffit d'une décision collective. Et ceci ouvre, ce me semble, des perspectives vertigineuse, car notre calendrier collectif, d'ailleurs calendrier collectif c'est presque une tautologie, est à l'agonie. Vous savez, les modes de vie désynchronisés, le jour, la nuit, chacun n'en fait qu'à son rythme, quand ça n'est pas le confinement, les fêtes nationales, les bank holidays, comme on le dit de manière très pertinente, en anglais, ne signifie plus grand chose pour les mentalités modernes. J'imagine qu'il y a des gens pour penser que le 11 novembre est une fête religieuse. Alors, le calendrier s'est restructuré autour des fêtes commerciales, le mois du blanc, ça a son petit côté Zola, et Noël évidemment, les soldes bien sûr, Halloween, comment ne pas y penser, et maintenant le Black Friday. Car la ruse de la bête à picot de cette saloperie de virus, c'est d'avoir définitivement installé le Black Friday dans le paysage, le voici maintenant, existant à tout jamais, les poilus. Avec le 11 novembre, nous aurons le Black Friday à date variable. Ils avaient la chanson de Craon, nous aurons la chanson d'Amazon. Une autre forme d'héroïsme, j'en conviens, donc nous aurons un Black Friday. Il sera repoussé d'une semaine pour permettre de faire ses achats dans le respect des gestes barrières. Et tous les achats inessentiels, des draps qui chauffent ou un pistolet à gaufres, deviendront essentiels. C'est qu'il s'agit de sauver Noël, non pas sa magie, mais les contes de Noël. Se rappeler que les objets inanimés ont une âme, l'âme de l'époque. Il va donc nous falloir accomplir notre devoir civique et participer au Black Friday. Un Black Friday marqué par la résistance à la bête à picot. Le Covid ne nous empêchera pas de dépenser jusqu'à la victoire finale. Antoine, marqué non pas par l'armistice, mais par les soldes des contes de Noël aux soldes de tout compte.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, deux invités de marque, deux grands romanciers, Emmanuel Carrère et Philippe Cadic. Enfin, l'un sera plus présent que l'autre, je ne vous dis pas lequel. Je ne veux pas divulgâcher cet épisode des matins. 7h, excellent réveil à tous.